France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. La présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule avec tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
D'un côté, un héros mutique, absent à la vie. De l'autre, un petit théâtre cruel chez les riches. Deux films, deux ambiances et quatre acteurs sur un plateau, le nôtre, qui incarnent tous le présent et l'avenir du cinéma français. Rien que ça. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Un récit mythique autour d'un héros condamné parce qu'il ne joue pas le jeu. L'étranger de Camus, adapté par François Ozon. Bonjour Benjamin Voisin.
Bonjour.
Meursault, c'est vous dans ce film, un rôle de présence et d'absence. Elle l'aime malgré tout, même distant, même indifférent. Bonjour Rebecca Marder.
Bonjour.
La Marie du livre, que votre présence d'actrice ensoleille. Un film sur une matière humaine, donc complexe, la femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat. Face à elle, Isabelle Huppert, l'escroc flamboyant. Bonjour Laurent Lafitte.
Bonjour.
Exubérant mais jamais caricatural. À l'inverse de l'exubérance, l'héritière de l'empire familial. Bonjour Marina Foïs.
Bonjour.
Frédéric, une femme de devoir dans cette prison 5 étoiles. L'étranger et la femme la plus riche du monde sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les films de la semaine d'Arco à la petite dernière. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
شو وعلاش جابوك لهنا اروح
il te demande qu'est-ce que tu as fait
j'ai tué un arabe.
Ce seront les premiers mots de Meursault dans ce film L'étranger de François Ozon, qui démarre par la fin du livre de Camus. Meursault, c'est vous, Benjamin Voisin, un modeste employé français à Alger en 1938, qui enterre sa mère sans manifester la moindre émotion, entame une liaison le lendemain jusqu'à ce drame sur la plage, sous un soleil de plomb, et où il tue un arabe. Derrière donc ce pitch classique, le roman de l'absurde, tellement d'exégèse autour de ce roman, Ozon a osé Camus et vous avez osé Meursault. C'était une prise de décision pour un roman aussi célèbre finalement dans le monde entier.
Ce qui était bien, enfin pour ma part, égoïstement, ce qui était bien, c'est que François et moi, on avait déjà un projet ensemble en amont qui s'est pas fait pour différentes raisons. Et qui était déjà sur un jeune garçon d'aujourd'hui enclin à fuir la société et à s'émanciper émotionnellement. Et dans la documentation de François, il a trouvé dans l'étranger une autre source de scénario à faire. Et en fait, on a évité la case violente de se dire on s'attaque à Camus de manière frontale et à Meursault. C'est venu plus doucement et plus lentement.
Est-ce qu'il y a des phrases du roman qui ont fait tilt pour construire votre personnage ?
Pour ma part ?
Oui.
Je suis allé chercher des phrases ailleurs. Ce qui était cool, c'est qu'en préparation, j'ai pu aller... Moi, j'aime plus préparer que tourner parce que c'est le moment où on peut un peu ouvrir le champ des possibles, justement, ouais. Comme dit Camus. Et il y a une phrase que j'aime bien de Paul Valéry, qui est trop longue, donc je vais la raccourcir.
Allez-y, ben vous avez le temps.
Raccourcissez, Valéry, allez-y. N'hésitez pas.
Non, la raccourcissez pas.
Ça dure 4 minutes 20.
Bien. Allez, c'est parti.
Non, il dit « Vous rêvez de la mollesse de la pierre, allez au bout de cette idée, et vous y trouverez cette phrase, « Rien n'est plus beau que ce qui n'existe pas. » Et je me suis dit, peut-être que pour jouer Meursault, ça peut être utile, dans le sens où je crois que ce qui était intéressant avec François, c'est de se dire il faut le faire sortir du paysage commun. Il faut que son œil, comme dit Robert Bresson, soit éjaculateur. C'est tout un truc.
Valéry Bresson.
Voilà, c'est tout un sujet. Ouais. Et pour ça, je me suis dit peut-être que de voir ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire que quand on voit un verre d'eau, on va voir un verre d'eau la plupart du temps. On va pas penser à l'usine, on va pas penser aux ouvriers qui ont fait le verre d'eau, on va pas penser au designer qui a inventé ça. Et je me suis dit, si tout le paysage en face de moi est comme ça, et que je ne vois pas les choses au premier degré, en première lecture, mais que j'ai un monde imaginaire sans cesse et sans fin sur tout et n'importe quoi, peut-être que ça sera utile.
Mais comment jouer sur un visage et une démarche, l'absence au monde, justement ?
Ah bah ça, déjà, ce que je viens de dire, je pense.
Ouais, mais
ça m'a aidé beaucoup.
Se vider, faire de la, je sais pas, de la réflexion, de la, du yoga, se calmer par rapport à tout ça.
J'avais lu aussi un texte de, enfin, une interview de Anthony Hopkins qui disait la méthode acteur studio, background, savoir d'où vient le personnage et tout, c'est peut-être pas forcément le plus intéressant pour certains films. Il faut peut-être juste simplement s'abreuver du scénario sans cesse et sans fin et de quelques phrases pour qu'en plus on puisse digérer. Par exemple, une phrase de Schopenhauer qui dit « Il n'y a pas de moment heureux, il n'y a que des moments où on n'est pas malheureux. » Bon, bah, si on se dit ça tous les matins, l'absence au monde, elle vient d'elle-même.
Elle est posée. Oui.
Physiquement, comment on crée une posture? Moi, je trouve que vous ressemblez un peu à Gérard Philippe dans le...
C'est gentil, c'est un bon compliment.
Non, mais c'est vrai, c'est cette
ou à Nicolas de Stahl.
Cette silhouette, ouais. Oui. Comment vous créez cette... Parce que c'est... Si en plus c'est 1938, c'est pas maintenant, c'est pas la même démarche qu'un type de 30 ans maintenant.
Évidemment que il faut le souligner, le costume de Pascaline Chavan est magnifique pour ça. Et évidemment qu'il permet une droiture de l'époque. Mais c'est étonnant parce que beaucoup de gens me parlent de la tenue du corps sur ce film, alors que c'est peut-être la première fois que j'ai pas du tout pensé à la physicalité du rôle. Donc ça voudrait peut-être dire qu'en fait, passer encore plus par... la période de l'intellectualisation au début, puis de la digestion, fait que la physicalité vient d'elle-même.
Il est minéral, en tout cas pour moi, de toute façon, c'est un corps minéral, c'est un corps...
Ouais. Mais c'est vrai que je le vois aussi, je me rends compte qu'il y a un truc qui est violent dans la posture même, qui est à la fois très là et à la fois très absent, qui fait un entre-deux et un va-et-vient permanent. Mais c'est ça, pour le coup, c'était un truc qui n'a pas du tout été travaillé, donc j'en suis content.
Dans le regard, on devait lire un homme encore jeune et pas blasé. Son innocence, c'est une vérité brute. Ça, c'est des belles indications, effectivement.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, on avait vu le film de Visconti, qui était
avec Mastroianni.
Avec Mastroianni, qui était en fait un petit peu raté, parce que déjà...
Beaucoup raté.
Voilà. Oui. Au niveau de l'adaptation, je
mais
crois
Visconti
que...
Mais Visconti le dit lui-même.
Oui, absolument. Ouais. Il n'aimait pas ce film. Il n'aimait pas ce film.
Mais c'est... Pardon,
Visconti.
L'étranger,
avec Mastroianni.
Oui.
Bah voilà.
C'est la première fois que le roman était adapté.
Ouais. Et en 67, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, je crois.
Exactement, ouais.
Et il y a deux choses qui ne sont pas bonnes. C'est une, l'adaptation, qui est peut-être trop page à page. Je crois que la femme de Camus était trop présente. Alors qu'adapter, il faut un peu trahir, je pense. Ou en tout cas, prendre des parties prises, ce que fait, je crois, beaucoup plus François Ozon.
Oui.
Et deuxième chose, Mastroianni qui est le meilleur acteur pour prendre une cigarette, boire un verre d'eau, attraper une femme par le bras, s'asseoir, tout ça. Tout ce qui sont en fait les choses de l'étranger, malgré tout sur l'état d'âme, il est trop chaleureux, il est trop italien et il est trop âgé. On peut comprendre à 50 ans qu'on se retire du monde. Ce que j'aime bien, moi, dans la proposition de François Ozon, c'est qu'à 30 ans, on se dit, bah non, c'est dommage, il y a tout pour vivre.
Mastroianni provoque l'empathie, hein, assez voilà, facilement, je pense, assez rapidement.
Je pense.
Trop, pour le...
Donc on essaie de plus le comprendre, alors que François, je crois qu'on a plus l'occasion de le juger, en tout cas.
Oui.
Face à Meursault, il y a Marie, cette jeune dactylo qu'il a connue un petit peu avant dans son travail, qu'il retrouve sur cette plage. Le rôle de Rebecca a été développé par Ozon, au-delà de la dactylo effectivement souriante. Je voulais qu'on tombe amoureux d'elle, au contraire de Meursault. Ça, c'est un poids à porter, ça, dites donc, Rebecca.
Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Moi, j'avais un souvenir adolescent de cette lecture de L'étranger, un souvenir assez flou, mais sensoriel quand même. Je me souvenais avoir découvert ce livre, je ne sais plus, au collège ou au lycée, et il m'en restait un truc charnel, mais je n'avais pas les clés, je crois, je ne les ai toujours pas. Enfin, comme les chefs-d'œuvre, on dit d'ailleurs qu'il faut les relire à tous les âges de la vie, et je pense que celui-là, il aide à vivre, enfin, L'étranger, franchement, mais j'ai toujours pas les clés aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas, à chaque fois que j'annonçais que j'allais prendre part à ce film, on me disait, mais il y a un personnage féminin dans L'étranger, enfin, les gens ne se souviennent quand même pas de Marie. Et lorsque François Ozon m'a fait ce privilège-là d'une plongée dans Camus, je me suis accrochée un peu à tous les détails en relise. Donc, j'ai relu le roman avant le tournage et j'ai essayé de m'accrocher à tout ce qui était écrit sur elle, mais voilà, pareil, elle est très décrite par sa physicalité. Ouais. Elle est la lumière du soleil, ouais, la flamme du désir, mais on sait pas, enfin tout comme Meursault n'a pas de prénom, Marie, on sait pas trop qui elle est. Donc en fait, je savais qu'avec François, qui a un amour des acteurs et des actrices et qu'il est magnifique quand même, je savais qu'aucun rôle féminin ne serait laissé sur le carreau. Et donc il a donné et à Marie Cardona et à Jamila, la sœur de l'arabe, la place un peu de garante de l'empathie. Et de, c'est comme Marie, elle a une prise de conscience de ce que c'est que la colonisation.
T'es bizarre, pas comme les autres. Tu dis tout ce que tu penses.
C'est normal.
Je sais pas. Des fois, ça peut faire mal. Ça doit être pour ça que tu me plais. Peut-être qu'un jour, tu me dégoûteras pour les mêmes raisons. Mais je veux me marier avec toi.
D'accord.
D'accord. L'enthousiasme de Meursault. Elle n'est pas naïve, cette absence au monde, de lui, ça l'attire même.
Oui. Oui, je pense qu'elle est fascinée et je pense qu'elle sait qu'il est sincère. Je pense que, d'ailleurs, il y a des scènes charnelles qui existent dans le roman et qui sont là dans le film et qui sont les seuls moments où lui, il s'abandonne. Finalement, il s'abandonne, quoi. Il est là au moment présent. Et je pense qu'elle, elle est fascinée par sa vérité. Et je pense que... comment j'essayais de m'accrocher, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi elle reste? Oui. Il est tellement, elle est obsédée par cette question du mariage, à chaque rencontre, elle le demande en mariage, elle le demande de la rassurer sur son amour, et il est quand même pas très rassurant. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est une chance d'être celui qui aime. Moi, on a tous vécu des histoires d'amour à sens unique, et enfin, en tout cas, pour ma part, oui. Et avec le recul, parce que quand on est dedans, c'est compliqué de penser, de réaliser, mais avec le recul, moi, je me dis qu'on se rend toujours compte que même dans la souffrance, et on s'entend quand je dis souffrance, mais ouais, on s'est senti vivant, quoi. Et je pense qu'en fait, elle voit ce personnage comme quelqu'un, voilà, qui est dans la vérité, et je pense qu'on sait pas ce qui se passe entre eux pendant les scènes qu'on ne voit pas. Et je pense aussi qu'elle voit peut-être le mariage comme une émancipation autre, pas forcément comme un but en soi, mais comme le moyen de s'échapper. Quand même, c'est le moins pire des hommes qui sont dépeints dans le livre et dans le film. Entre le voisin qui bat son chien, celui qui bat sa femme, les représentants de justice qui sont quand même tournés au ridicule. Finalement, c'est le plus beau, et il l'emmène au cinéma, il fait vibrer ses sens, il a la possibilité d'aller travailler à Paris, donc peut-être de l'emmener. Enfin voilà, je me suis inventé d'un ailleurs.
En même temps, en 1938, elle couche le premier soir.
Et en plus, voilà, elle est très en avance.
Elle est super libre.
Elle se donne, elle prend du plaisir, elle travaille. Enfin, c'est sûr que c'est une femme. Je me suis dit que c'était une femme visionnaire.
Quelqu'un, un spécialiste de Camus, vous a dit Marie, c'est Camus.
Oui. Mohamed Aissaoui, avec qui François a beaucoup échangé avant le tournage, lui aurait dit ça, parce que Camus, il est pas... Justement, il croit en la révolte, il croit en l'amour, et il est c'est un passeur d'idées démocratiques, il est contre les idéologies, mais en revanche, je pense qu'il a foi quand même en l'amour et en la liberté, et je pense que il a mis un peu ça dans Marie, qui, enfin, en tout cas là où parfois on a l'impression que Meursault est un peu en perte de sens et de quête, Marie, elle continue de croire.
Il y a comme deux parties dans votre rôle, Benjamin Voisin, une partie très muette, etc. Et après, la révolte, comme s'il y avait deux films dans le film, parce que tout d'un coup, enfin, on l'entend s'exprimer.
À la fin du film, on touche un tout petit peu la deuxième partie de la vie de Camus, d'un point de vue philosophique, qui est L'homme révolté, où il donne des réponses. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça pourrait être totalement un autre film. On l'a tourné le premier jour de tournage, cette scène.
Oula.
Et on s'est dit, c'est peut-être pas mal de savoir vers où on va.
Où on va.
Elle est mythique. Franchement, j'ai l'impression que ce sera le genre de scène qui se passe après au conservatoire. C'est vrai, c'est bizarre.
La scène de
entre Swann Harlow et Benjamin, elle est tellement forte. J'ai l'impression que c'est le genre de scène qu'après on peut reprendre en concours et tout d'école de théâtre.
Elle est belle parce qu'elle donne du sens pour tous ceux qui. Ouais. Moi, je trouve que c'est beau de. On en croise tellement des gens qui sont renfermés et on n'ose jamais leur parler, leur demander. Et s'ils n'arrivent pas tout de suite à s'exprimer ou s'ils ne veulent pas, on peut les juger, les mépriser et passer à côté. Et ce qui est dommage, parce qu'avec du temps, ça arrive doucement. Là, ça arrive dans un éclat de colère, mais ça aurait pu arriver dans un éclat de douceur. Il faut laisser du temps au temps et accepter les gens comme ils sont. Je crois que le film parle aussi de ça.
On va pas passer cette scène, on va passer une autre qui est très, très importante et qui vous raconte beaucoup aussi, Meursault, et qui vous raconte aussi beaucoup, Marder, Marie. C'est en prison, donc quand elle va le voir...
Ah oui.
Tu fais quoi de tes journées ?
J'ai tué le temps. J'ai lu un article sur un vieux journal. Un fait divers.
Oui ?
Sur un homme en Tchécoslovaquie, je crois.
Allez, allez !
Il était parti de chez lui pour faire fortune. Au bout de 25 ans, il était devenu très riche, avec une femme et un enfant. Alors il est revenu dans son village. Comme sa mère tenait un hôtel avec sa sœur, il a voulu leur faire une surprise. Mais elles ne l'ont pas reconnu. Pour jouer, il a pris une chambre. Et il a montré son argent. Alors pendant la nuit, la mère et la sœur sont montées dans la chambre. Et pour le voler, elles l'ont assassiné à coups de marteau. Et puis elles ont jeté son corps dans la rivière.
C'est vraiment arrivé ?
Ouais. Le lendemain matin, quand elles ont compris qui elles avaient tué, la mère s'est pendue. La fille s'est jetée dans un puits.
Mais c'est horrible.
Il l'a un peu mérité.
Allez, Meursault.
Pourquoi tu dis ça ?
Il ne faut jamais jouer.
Jouer ?
Oui. Pourquoi mentir ?
Vous avez changé votre voix pour le film un petit peu. Elle est un peu plus, elle est un peu plus calme.
Encore une fois, c'est comme le corps. Peut-être qu'avec le... Avec le travail intellectuel, il y a quelque chose qui s'est affaissé, peut-être. Et je trouve ça beau, parce que là aussi, ça parle quand même de Camus. Il y a évidemment un jeune homme qui est criminel, qu'il faut juger. Et moi, je crois encore en la justice. Donc c'est important. Par contre, demander de développer des sentiments, c'est pas forcé. Et qui plus est, chez un être qui ne veut pas correspondre. Moi, je trouve ça bien, si quelqu'un peut se sentir... brouillon dans une société où il faut absolument correspondre à une image précise, là on a quelqu'un qui dit pourquoi mentir, pourquoi jouer. Ça sert à quoi d'arriver devant des gens en étant brouillon ? Autant se connaître un peu soi-même et faire ce qui est un peu cool dans la vie, c'est être unique, parce qu'on l'est tous. Donc...
J'ai le livre en main, la nouvelle édition de L'étranger de Camus, et il y a votre visage dessus.
Consécration.
Vous vous rendez compte, vous avez imprimé ça dans les têtes de plein de gens maintenant.
Et moi je pense qu'à mon grand-père. Mon papy qui va l'avoir dans les mains et me dire il a vécu toute sa vie avec ce bouquin et maintenant il y a son petit-fils dessus.
On quitte... alors on rappelle la sortie bien sûr de L'étranger mercredi prochain. On quitte Alger pour rejoindre une grande demeure bourgeoise à Paris et en couleur.
Ouais, c'est bien là. Ouais, vous avez l'air de dire vous ne m'aurez pas. J'ai mis une chemise d'homme parce que je vous emmerde et je ne porte pas de bijoux. Justement parce que je suis riche. Je peux vous décoiffer. Ah, vos cheveux, c'est pas possible.
Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux ?
Ben, ils sont morts, c'est mou, ça ne bouge pas, ça ne respire pas. J'ai vu des poupées bas de gamme au rayon jouet des Galeries Lafayette dont les cheveux étaient plus vivants. Là, regardez-moi ça. Qui a fait ça ? Qui est l'assassin ?
Alexandre Zoari à l'Alma.
Ah, ben tout s'explique. La Zoari. La tueuse.
Et qu'est-ce que vous faisiez à votre âge au rayon jouet ?
Je ne draguais pas, rassurez-vous. Touchez pas vos cheveux. Touchez pas cet animal mort. Oui, ne faites pas la gamine, agaçant.
Vous me faites rire.
Elle est magnifique, non ?
Oui.
J'ai bien fait d'insister.
Oui.
Tout le monde rit autour de la table. Marianne Farrer, Isabelle Huppert, milliardaire à la tête d'un empire cosmétique redoutable et vulnérable. La preuve au contact de cet écrivain photographe, Pierre-Alain Fantin, c'est vous, Laurent Lafitte, l'escroc flamboyant, je le disais, sous les yeux de Frédéric Marina Foyce, l'héritière méfiante et blessée. Bref, l'affaire Bettencourt, dans La femme la plus riche du monde, dont Thierry Cliffat a tiré un récit romanesque. En fait, c'était ça. Question à tous les deux, Marina et Laurent Lafitte. C'était ça l'intérêt, en fait. C'était quitter le fait divers pour faire un film romanesque. D'ailleurs, vous dites dans Télérama cette semaine, cette histoire, ça fait du cinéma. Marina, vous le dites.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est presque un... Il y a du huis clos, il y a trois personnages qui sont enfermés, qui n'arrivent pas, comme s'ils rentraient dans le tambour d'une machine à laver, qui n'arrivent pas à en sortir. Ce qui est aussi intéressant, c'est la mécanique, c'est romanesque, mais ce n'est pas la psychologie des personnages, c'est plutôt... c'est vraiment le rapport, la relation, ils n'existent pas les uns sans les autres. Oui. Donc ça, c'est évidemment ultra cinématographique, puis c'est un milieu de... C'est une petite royauté absurde et terrifiante qu'on ne connaît pas, parce que c'est la grande bourgeoisie française,
les ultra riches,
cachés, les ultra riches. Donc en fait, oui, c'est une machine à fantasmes.
Absolument.
Une histoire de pouvoir, de désir et de trahison, c'est ça, hein, l'idée aussi.
Oui, il y a ça, il y a tout ça. Et c'est vrai que c'est important de s'écarter de la vérité quand les éléments réels sont très documentés. Il faut quand même une base qui est très très ancrée dans le réel. C'est aussi l'intérêt de cette histoire, c'est que c'est aussi tiré d'une histoire vraie. Après, c'est tiré d'eux, mais l'histoire vraie, elle est vraiment importante, elle nous passionne tous depuis longtemps. Et évidemment, quand les portes se ferment, qu'est-ce qui se dit? C'est là qu'intervient la fiction, et c'est là que ça devient du cinéma.
Et c'est là qu'intervient...
C'est pas de la caricature, pardon.
Non, parce que votre personnage, il faut vraiment... Là, on vient de l'entendre, on peut se dire « Non, mais c'est un cliché, ça charrie des choses. » Mais pas du tout. Pour qui le connaît, c'est lui. Vraiment.
Bah écoutez... c'est un compliment.
Ah bah tout à fait, ça va. Bien sûr.
Oui, mais moi de toute façon, quand j'ai préparé le personnage, je suis parti du vrai protagoniste pour trouver une base d'inspiration, pas pour faire un copier-coller. Donc j'ai essayé de comprendre un peu une diction, une manière de parler, une énergie. Et puis après,
vous avez trouvé tout seul ou avec Cliffa?
Non, j'ai regardé des archives.
Il y a
puis
beaucoup
après,
d'archives.
Ouais, ouais. Et puis il y en a quand même quelques-unes. Et après très vite avec Thierry, comme aucun de nous, que ce soit Isabelle, Marina ou Raphaël Personnaz, n'étions dans un biopic. Donc les libertés qui étaient prises à l'écriture, on les avait aussi dans la caractérisation des personnages. Donc après, on s'en est éloigné, on a donné nos versions des personnages en partant malgré tout des vrais protagonistes.
C'est compliqué, c'est sur un fil, hein, entre l'exubérance et la caricature, il y a très peu de centimètres. Hein.
C'est la sincérité qui vous sauve de la caricature. Vous pouvez aller très très loin. De Funès va très loin dans le burlesque, mais avec une sincérité totale.
Oui.
Donc on y croit, quand il est en colère, même s'il tire sur son nez pour jouer du violon. Donc c'est vraiment c'est la sincérité qui vous protège de ça et qui vous évite le numéro d'acteur ou la caricature.
Comment expliquer son mépris des pauvres ?
Alors, je pense qu'il doit avoir une détestation de la pauvreté. Pourtant, lui ne
vient pas d'un milieu
très pauvre, non. Mais je pense qu'il a fantasmé quelque chose d'encore plus grand. Et c'est ça qui est intéressant dans les rapports qu'il a avec le personnage de Raphaël Personnaz, qui est le majordome, qui va donc mettre en place aussi toutes les écoutes et tous les enregistrements qui vont faire éclater l'affaire.
Ouais.
C'est que ce sont les deux transfuges de classe en fait, dans cette histoire.
Exactement.
Sauf que mon personnage n'a pas imaginé un instant pénétrer ce milieu-là en devenant majordome. Donc il méprise en fait une espèce d'ambition qu'il juge au rabais, et ça crée des rapports de sadisation qui sont assez drôles.
Il n'y a pas une histoire de mauvais traitement aussi dans l'enfance chez lui?
Il y a ça.
C'est pas
inintéressant comme piste.
Mais c'est aussi un film sur le manque et la frustration.
Oui.
En fait, ils sont tous frustrés, lui probablement totalement, de reconnaissance. Il s'est rêvé artiste et il l'est pas. Elle rêve de liberté, de fantaisie. Elle se fait chier, elle s'ennuie à mourir. Elle rêve d'un ailleurs. Mon personnage, il rêve d'avoir enfin un jour l'amour, voire même la considération de sa mère. En fait, c'est que des gens en manque et qui deviennent addicts à quelque chose qui, évidemment, et qu'ils n'obtiendront jamais.
Est-ce qu'il a pas un côté loser aussi, lui? Parce qu'en fait, ça marche. Bon, ok, il était photographe, il était ami de plein de gens célèbres, mais il a un côté je réussis pas, quoi.
Bah oui, il parle à un moment de la malédiction des précoces. Il a une espèce de fulgurance jeune. Il a été un peu pris sous la coupe d'Aragon, il est devenu une sorte de jeune auteur un peu mondain dont on parlait à Paris. Il a commencé presque à se créer un personnage, à se créer une propre mythologie, et il se retrouve à un moment où il est aussi prisonnier de son personnage et effectivement de ses ambitions ratées.
On dit que, il l'a réveillé, cette femme qui avait des plannings horribles, qui était complètement dont la vie était millimétrée, il l'a fait sourire et rire, il n'a jamais été amoureux d'elle. Vous pensez qu'elle était amoureuse de lui?
Alors, c'est une des questions qui est posée dans le film, à travers certaines scènes.
Oui.
Je pense qu'on on peut pas avoir la réponse, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question, et j'aime comment la question est posée dans le film, et le regard, la lumière qui apparaît dans l'œil d'Isabelle Huppert quand justement elle prend en charge cette question-là.
C'est une vieille petite fille. Je parle pas d'Huppert, je parle du personnage. Ouais, hein. C'est deux enfants en fait.
On vous laisserait pas.
Non, mais elle rit comme une petite fille.
Oui, c'est fou, ça. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a des moments, elle a 8 ans. Quoi.
Ça fait remonter une part d'enfance. Quoi. C'est
sûr, complètement. Bien sûr.
Mais c'est des gens qui ont été complètement corsetés. C'est un milieu infernal. Ouais. Les codes, les identités existent beaucoup moins que les règles. C'est l'enfer. Ouais. Ouais. Qui parle de ce dont il a envie? Qui s'exprime librement? Personne, en fait. C'est complètement corseté.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on parle souvent de la grande bourgeoisie française, mais là, c'est presque plus monarchique. Enfin, les enjeux, c'est vraiment leur entreprise. C'est un royaume qu'il faut préserver avec des décisions de raison. Ça, c'est terrible.
Vous avez tenu à la scène de la boîte de nuit.
Oui, on a failli ne pas la tourner, il y a un problème de planning. Mais avec Isabelle, on s'est vraiment battu pour la faire. Et avec Thierry, on a vraiment soutenu là-dedans parce que c'était un moment. C'est important qu'au bout d'un moment, ce soit les corps qui parlent. C'est un film qui est très dialogué et c'est un des plaisirs, une des saveurs du film.
Bah oui, ils ont réussi à inventer ce qui se passait dans cette maison.
Bah voilà.
Ils sont goulayants, ces dialogues.
Ils sont des gens qui ont. Jacques Fesky, Cédric Angers. Évidemment, ce sont des gens qui sont des gens assez érudits, qui ont une pensée très structurée, qui verbalisent facilement, qui ont de l'esprit. Donc là, il y avait une occasion dramaturgique que des dialogues existent de manière puissante. Et ça, c'est un plaisir savoureux. Et il fallait qu'à un moment, ce soit les corps. Et dans la boîte de nuit, déjà, je lui fais ouvrir une petite expérience...
médicamenteux.
Presque. On va pas spoiler.
Non.
Déjà, c'était drôle. La situation était drôle. Et puis, c'était important que les corps se rapprochent, parce que justement, c'est une histoire qui n'est jamais physique entre eux.
Ouais. Marina, vous, c'est pas évident comme rôle, donc le rôle de l'héritière, une femme en retrait, spectatrice silencieuse d'un drame intime, elle souffre sans jamais pouvoir l'exprimer. En fait, elle se rend compte que ce type-là, tout d'un coup, amène un autre comportement chez sa mère. En fait, c'est une fille dont la mère l'aime pas, quoi.
Oui, et puis elle va voir sa mère aimer, justement. Aimer, désirer, donner. Ce qu'elle n'a jamais reçu. Donc c'est infernal.
Bon, c'est des sommes colossales, mais on peut dire que l'argent, c'est de l'amour aussi.
En tout cas, c'est des gens qui ont moins de problèmes à parler de chéquier que de sentiments. Ça, c'est sûr que ils relationnent autour de millions. C'est leur manière de...
c'est ça. Ouais.
Visage lisse, tenue impeccable. Presque la femme invisible, quoi.
Oui, c'est pour ça que le rôle m'a intéressée, en fait. Parce que c'est rare qu'on me propose ça, moi. Mais je pense que c'est rare qu'on me propose ça de manière générale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui existe dans sa manière de recevoir ou de ne pas recevoir. Ce qui compte, c'est l'écoute, ce qu'elle n'est pas capable de dire, ce qu'elle n'est pas capable de ressentir. Donc c'était l'idée vraiment de ce personnage, c'est comment il essaye de se faire une place, et le seul moyen qui lui sera donné, c'est de prendre les armes qui ne sont pas les siennes, qui sont celles de ses avocats. Donc c'est quelqu'un qui n'existe pas. En fait, il n'est pas question de sentiments, il n'est pas question de... Il est question de réagir, quoi. Et c'est vachement intéressant.
Vous avez rencontré la vraie fille de...
Non. Mais moi, je trouve que quand on joue des personnages réels, il y a un problème de décence, en fait. C'est-à-dire qu'à quel moment ils ont envie de replonger dans cette histoire-là. Nous, on a le pouvoir de l'imagination, de l'empathie, de la littérature, on peut se nourrir de n'importe quoi. Là, je pars au Maroc pour tourner l'histoire vraie d'une femme, d'un couple qui ont perdu leur enfant. Je ne vais pas aller interroger la femme, la replonger dans sa douleur. En fait, nous, on fait du cinéma. Et on n'est pas journaliste. L'idée, ce n'est pas d'enquêter, en fait. Je pense que la vérité a moins d'importance que l'envie qu'on a de... Enfin, je sais.
Ouais, en revanche, vous connaissez plein de femmes qui ne sont pas aimées par leur mère aussi.
Oui, bah ça, on en a plein. Moi, ma mère, elle a eu une mère atroce. J'ai plein d'amis. Enfin, et les femmes qui n'ont pas reçu l'amour maternel sont des femmes bancales. Et elles le seront toute leur vie. C'est une quête infinie et désespérée. On n'est pas les mêmes, quoi. Quand on a été aimé par sa mère, on peut traverser la vie avec ses catastrophes. Mais c'est pas la même chose. Ne pas avoir eu ce regard-là... D'ailleurs, vous disiez que Isabelle, elle riait comme une petite fille, mais je pense que mon personnage aussi, la petite fille pas aimée, elle sera toujours présente dans ce corps, et ça donne un rapport à la vie, au plaisir, à la joie, qui est très très empêché, quoi. C'est des personnages très intéressants.
Tu m'excuses auprès de ton fils, j'ai mangé le dernier esquimau.
Tu devrais pas manger aussi sucré.
Tu n'es pas mon médecin.
T'as parlé avec Jean-Marc?
Jean-Marc, il joue ses propres pions.
C'est-à-dire?
Tu sais bien, toi aussi, tu joues tes pions. Et moi, les miens.
Et c'est quoi, tes pions?
Tout le monde joue, ma chérie, c'est la vie.
Tu n'as jamais aimé Jean-Marc?
Non. C'est juste que... Et puis après tout, tu as raison, mais pas pour ce que tu crois.
Et qu'est-ce que je crois?
Ça m'a beaucoup blessée le jour où tu m'as dit que je n'aimais pas Jean-Marc parce qu'il est juif. J'étais entourée d'Israélites dans ma vie, tu t'en es rendu compte? Mais tu t'ennuies pas avec lui? T'avoueras qu'il manque un peu de consistance pour Jean-Marc. Il est rusé, certes, mais il n'y a pas d'idée.
Tu es très injuste. T'aurais pu l'aimer? T'as bien réussi à aimer papa?
Ah, mais j'aime ton père. C'est juste que je ne supporte pas d'être enfermée dans un rôle. Celui d'une femme qui dépend d'un homme, qui se sent seule quand il n'est plus là ou quand il meurt. Il le sait d'ailleurs, quand nous sommes allés chercher mon allant, je lui ai dit surtout pas trop serré. Tu peux me laisser travailler maintenant?
Waouh!
Eh oui!
Eh oui!
Eh oui, c'est une famille antisémite. Et qui n'a pas si honte que ça.
Non!
Peut-être, hein.
Parce qu'elle-même, elle a épousé un homme juif. Donc
oui, d'ailleurs,
elle...
c'est pour ça que ce personnage-là, en termes de fiction, en tout cas, je ne parle pas de la vraie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a inconsciemment essayé de réparer le passé.
Antisémite,
c'est une famille qui s'est quand même arrangée avec l'histoire. C'est pas très clair d'où vient le pognon, comment
non.
ils ont, voilà, leur histoire dans l'après-guerre est quand même questionnable. C'est un passé qu'ils assument avec nonchalance. C'est ça qui est pire. La scène avec mon père, quand les textes antisémites vont être, il y a un journaliste qui va enquêter, qui va sortir les textes antisémites du père. Il se contentera de dire, écoute, c'était l'époque, comme les mecs à propos de MeToo. C'était une autre époque.
Oui.
Donc, et elle, en fait, avant de connaître ça, elle a épousé un juif. Elle s'est interrogée sur...
Un juif pratiquant.
Ouais. Son fils fait sa bar mitzvah. Ouais. Elle s'est interrogée sur... Elle a écrit des livres sur les couples mixtes, comment... sur les mariages voilà, catholiques, comment on peut vivre avec cette religion, tout ça. Donc, c'est marrant, elle s'est investie d'un rôle avant même que le scandale arrive. Donc, parce que bon, après, on sait bien que les secrets de famille, tout le monde est au courant, en fait. C'est souvent ça, le principe du secret de famille.
Mais elle passe au-dessus pour accepter... Elle accepte que son mari dirige le conseil d'administration, quand même.
Elle c'est surtout qu'elle accepte l'héritage, en fait.
Mais oui,
à quel moment
Mais
Parce que l'héritage, c'est pas que le pognon, c'est aussi ce passé antisémite. Et elle, en fait, au nom de quoi elle va accepter tout ça pour pas ébranler cette espèce de petit château de cartes. Et en fait, moi, c'est, sur mon personnage, je peux comprendre plein de choses. S'arranger avec ce passé-là, moi, c'est peut-être que c'est ma limite. Et le film, il est intéressant pour ça, en fait, parce qu'on comprend bien que chacun a ses raisons, mais que surtout, chacun va s'arranger.
Quand vous dites c'est votre limite pour l'accepter presque, le rôle, vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais non, c'est moi je pourrais jouer, moi je peux jouer un salopard, c'est pas mon problème.
Ouais,
Pas, dans un film qui dénonce la saloperie du salopard, pas dans un. Je serais pas égérie nazie, hein, jamais.
Non.
Mais je peux jouer un nazi, vous voyez ce que je veux dire?
Vous pourriez par exemple faire le rôle de Charlotte Rampling chez Cavani.
Ah, portier de nuit.
Portier de nuit.
Bah, en fait, je n'ai pas de... Mon problème, c'est ce que raconte le film.
Ouais,
c'est ce que porte mon personnage.
Oui.
Sinon, je ne vais pas jouer que des femmes vertueuses.
Non, bien sûr.
Ça m'intéresse beaucoup moins, par ailleurs. Mais non, ce qui est important, c'est les questions que pose le film.
Oui,
je ne peux pas dealer avec mon éthique ou ce que j'ai de morale. Mais oui, je peux dire que ce personnage-là, que je joue, me pose question à ce moment-là.
D'ailleurs, Laurent Lafitte, le film pose des questions, mais ne répond pas forcément, parce que comme il n'y a pas de jugement, et sur vos personnages, entre vous et eux, et le metteur en scène par rapport à l'histoire, c'est ça l'idée, hein, c'est, que
oui,
c'est à nous de...
Oui, c'est ça, le film ne tranche pas, on ne dit pas, il ne l'aimait pas, il pensait qu'à son argent, ou elle a été totalement manipulée, elle était sous emprise, bon, c'est, ou la fille ne pensait qu'à l'argent, il n'y avait pas d'histoire de sentiment, enfin, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que ça ne tranche pas, et que quand on ressort du film, c'est comme si on nous avait fait rentrer chez eux, mais qu'on ressortait avec la même question, mais avec d'autres arguments, pour pouvoir justement vraiment continuer à débattre.
C'est drôle, dans l'extrait que vous avez passé, Meursault dit bien. Il faut pas jouer, ouais. Et dans l'extrait que vous avez passé de La femme la plus c'est Bettencourt dit il faut jouer, tout le monde joue le jeu.
C'est pour ça que ces deux films sortent en même temps.
C'est bon.
Oui, c'est pour ça. C'est exactement. Oui, ils se sont réunis, ils se sont dit c'est marrant, on a deux dialogues qui se répondent, on devrait sortir le même jour, et moi je trouve ça formidable.
Oui, c'est une idée géniale.
Non mais par contre je peux juste dire un truc sur un tout petit truc. Un film qui juge pas, c'est un film mou. C'est un film qui donne des éléments pour se faire sa propre opinion.
Oui,
voilà.
Oui,
chacun est responsable.
Oui,
voilà. Parce que
oui. La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffa, L'étranger de François Ozon sur nos écrans mercredi prochain. On écoute Sébastien Tellier, Naïf de cœur.
Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Bonjour Laurent.
Ah bon, écoutez, j'étais là.
Non, mais j'étais un peu perturbée.
On s'est disputé hors antenne sur deux films.
La petite dernière, troisième, et quel film signé Afsia Herzi, adapté du roman de Fatima Das. Fatima, 17 ans, vit en banlieue avec ses sœurs dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philo à Paris et découvre un tout nouveau monde. Un récit d'émancipation, délicat, bienveillant, dans la tête d'une fille qui interroge son désir pour les femmes sans renier sa foi musulmane. Aussi courageuse finalement qu'Afsia Herzi sur ce sujet délicat, Laurent.
Oui, il y a un dialogue inaugural qui est, je trouve, très très symptomatique entre deux jeunes femmes, dont l'héroïne. L'autre lui dit « je peux t'embrasser » et l'héroïne répond « non, mais on peut discuter ». Je trouve que c'est une bonne façon d'envisager les choses, la vie et les relations au moins amoureuses dans leur début. Ça raconte effectivement le parcours d'une combattante en milieu hostile, milieu familial, milieu social, milieu religieux, milieu affectif. La barque est lourde, mais elle est certainement très réelle et très réaliste, et c'est une jeune fille courage qui ne lâche rien. Ce qui est intéressant aussi, peut-être, c'est que c'est un film aussi sur l'émancipation d'Afsia Herzi par rapport au mentor qui est Abdelatif Kechiche, qui n'est pas un mauvais mentor à avoir, bien entendu. Et l'émancipation se fait ici en douceur, par rapport notamment à la vie d'Adèle. C'est décidément une cinéaste qui est en train de naître sous nos yeux, et ça fait bigrement plaisir.
Avec un prix d'interprétation à la clé, Nadia Meliti, incroyable. Magnifique. Premier rôle.
Moi, j'ai trouvé que déjà, non, tu mérites un amour, elle était bien,
mais bien sûr,
bien émancipée.
Ouais.
On est d'accord.
C'était un très beau geste cinéma, le premier film. La disparition de Joseph Mengele, film que voudrait bien voir
Marina
Foïs, de Kirill Serebrennikov. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Josef Mengele, le médecin nazi du camp d'Auschwitz, parvient à s'enfuir en Amérique du Sud pour refaire sa vie dans la clandestinité. Le film, incroyable pour un biopic, qui démarre sur le squelette de son protagoniste, Josef Mengele. Il suit ensuite le médecin nazi d'Auschwitz dans sa fuite en Amérique du Sud, donc celui baptisé l'Ange de la Mort, qui va organiser sa disparition pour échapper à tout procès. C'est un film pour comprendre le basculement de cet homme qui a mené d'effroyables expérimentations médicales, un film en noir et blanc, mais en couleur pour cet épisode des camps. C'est-à-dire que c'était les meilleures années de Mengele, dit Olivier Guez, l'auteur du livre, les couleurs de sa vie. La critique, forcément, est très partagée, Laurent.
Oui, moi j'ai eu un grand malaise, d'abord parce que c'est la énième mouture du concept, je crois, mal digéré de Hannah Arendt sur la banalité du mal qu'elle a exprimé à Nuremberg. L'abominable médecin bourreau d'Auschwitz ne serait donc qu'un petit homme gris, un minable, un salaud ordinaire, en noir et blanc, évidemment. Et puis jusqu'à ce que le film bascule, tout d'un coup, dans un format autre, carré, avec beaucoup de couleurs, pour une scène, alors là, qui est encore plus malaisante, de vrais faux films d'amateurs filmés par des bourreaux en train de...
En Super 8.
Super 8, qui n'a jamais existé puisque les nazis ne se sont jamais filmés. C'est une vérité historique et cette façon de reconstituer quelque chose qui n'a jamais existé.
C'est un regard de metteur en scène.
Dans un camp, oui, mais moi, c'est justement, c'est ça qui me pose énormément de problèmes par rapport à la démarche de Serebrennikov. Une fois de plus, la Shoah fait l'objet d'un propos esthétisant en total décalage avec le réel indicible.
L'homme qui rétrécit, c'est l'histoire d'un homme qui rétrécit.
Ah oui, c'est vrai, je confirme.
C'est Paul Jean Dujardin. Non, c'est le remake 68 ans plus tard, oui. Un grand classique signé Jack Arnold. Alors oui, effets spéciaux au top, performance indéniable d'acteur. Jean Dujardin seul en scène les deux tiers du film. Mais tout petit message philosophique quand même.
Ben oui, Dujardin n'est pas du tout en cause. Le fait de vouloir faire un remake d'un film absolument incroyable, pourquoi pas ? Il y a des bonnes intentions. Le fait qu'on minore les grandes scènes du film qui sont l'araignée et le chat, pour ceux qui l'ont vu. Mais néanmoins, effectivement, la matière métaphysique que charrie Kounen est absolument en dessous, sans jeu de mots, de la réalité. Et la fable devient assez lourde avec lui.
Imago de Denis Oumar Pitsaïev. Denis, donc c'est lui, est le nouveau propriétaire d'un petit coin de terre dans une vallée isolée en Géorgie, à la frontière de la Tchétchénie. Donc il est exilé depuis l'enfance. Il débarque là-bas, projette d'y construire une maison qui tranche drôlement avec les coutumes locales. C'est vrai que c'est un homme frêle qui contraste effectivement avec ses cousins très forts. Une communauté qui lui demande sans cesse s'il va se marier, un décalage fou entre eux et lui jusqu'à cet échange. Change bouleversant avec son père qu'il n'a pas vu depuis 20 ans.
C'est un très très beau documentaire avec des très belles idées, comme effectivement ce type qui revient en Tchétchénie pour construire une maison, et cette maison il la veut surpilotée parce qu'elle ne doit pas avoir de cave, parce que toutes les maisons là-bas ont une cave pour qu'on puisse s'y terrer quand il y a des combats, quand il y a des bombes, etc. Et cette contre-proposition architecturale qu'il fait, elle est évidemment extrêmement symbolique et extrêmement belle, et c'est à l'image de ce très beau documentaire, entre documentaire et fiction d'ailleurs, ça s'appelle Imago.
Il y a aussi une chambre pour pleurer.
Par exemple, oui.
Arco, c'est de Hugo Bienvenu, c'est un premier film incroyable, animation en 2D, dessiné à la main, rempli de couleurs pop. En 2075, une petite fille de 10 ans voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tombée du ciel. Il vient du futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Demain sera terrible, catastrophe climatique, famille hologramme et enfants livrés eux-mêmes, mais après-demain, l'humanité aura pris de la hauteur. C'est le pari optimiste d'Hugo Bienvenu. Il pense que tout peut se réparer et se réenchanter.
Ouais, qu'est-ce que j'aimerais m'appeler Hugo Bienvenu. L'animation française, c'est vrai, génial. C'est pas donné à tout le monde.
C'est toujours mieux que Gérard dégage.
Je savais que ça vous mettrait en joie. L'animation française se porte bien après Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet, cet Arco, et puis on parlera aussi d'un troisième un peu plus tard. Trois films, trois univers, trois très différents. Et Arco a été d'ailleurs absolument primé au festival d'Annecy, hein, la mecque du cinéma d'animation. Non, ça a énormément de qualité, vous le disiez, avec cette 2D, et pas 3D, 2D dessinée à la main, ce qui demande un travail sidérant. On songe inévitablement à Miyazaki, mais c'est pas du tout un remake, c'est juste une façon de se situer dans la généalogie intelligente du film d'animation.
Il reste 3 minutes, Laurent. Donc, Le secret des mésanges, c'est un premier long métrage d'animation très joli.
Merveilleux, papier découpé, c'est vraiment pour les petits, mais c'est très très bien fait, ça vient de Folle Image, il faut vraiment aller le voir, c'est d'Antoine Lanciot.
Une immense rétro de Pardon au cinéma qui va beaucoup intéresser Marina Foy, parce qu'il y a beaucoup de choses.
J'ai tout vu, moi. Moi, j'ai vu tout de Pardon, et je revois très régulièrement.
Vous irez donc revoir Sans Clément, Effets divers, Urgence, Délits flagrants. C'est le premier volet d'une toute une série qui en aura 4. C'est le premier volet qui s'appelle De Pardon, Citoyen. 7 films au total pour l'instant. Ce sont des merveilles
à chaque
fois.
Le festival et une rétrospective Guitry, où ça?
À la Cinémathèque française jusqu'au 30 novembre. Tout Guitry. Et là aussi, on ne loupe pas tout Guitry.
Et puis, festival italien.
Depuis le 24 octobre jusqu'au 11 novembre, l'Italie s'est célébrée à Villerue, avec notamment Venise et un hommage à Bellocchio, il maestro.
Voilà, maintenant on a 2 minutes pour 4 cadeaux.
Tranquillement. Ah. Pour vous, Marina Foïs, on a pensé à un film qu'on a beaucoup aimé ici, qui s'appelle Normal Family.
J'ai vu. Vous l'avez vu?
Et alors?
Ouais, je l'ai vu. J'ai beaucoup aimé, beaucoup.
C'est un DVD chez Diafana, qu'on est heureux quand même de vous offrir, un film coréen. Deux frères, l'un est matérialiste, l'autre idéaliste, et ça explose.
Il aura la fille de Guérardin, du coup.
Bah oui. Pour vous, Rebecca Marder, on a songé à Jeune Mère, le dernier film en date de Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui a obtenu le prix du scénario. Laissez-en pour les autres. Le prix du scénario en 2025, c'est un film choral pour la première fois chez les frères Dardenne. Ouais. Et là aussi, c'est absolument...
Il faut voir tous les Dardenne.
Je vais le voir absolument.
Voilà. Pour vous, Benjamin Voisin, moi je ne connaissais pas ce film. Les copains d'Eddie Coyle, c'est un film de Peter Yates, celui qui avait fait Bullet, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Tu l'as vu, Marina?
Avec l'immense Robert Mitchum, et c'est un rôle où il va devenir un indique, c'est chez Rimini, c'est une très belle édition DVD Blu-ray qu'on est heureux de vous faire découvrir.
Merci beaucoup, ça adore.
Et enfin pour vous, Laurent Lafitte, ce film dont on reparle et pas seulement l'œuvre originale, Le Comte de Monte Cristo, bien entendu. Marina Foïs, vous l'avez pas vu.
Moi j'ai adoré celui dans lequel il y a Laurent Lafitte, d'ailleurs, qui était extraordinaire dedans.
Mais moi aussi, et on est heureux de...
Du coup, j'ai pas envie de le revoir.
Mais Jean Marais, moi non plus. Vous avez tort, c'est une très belle édition en plus chez Rimini, c'est Jean Marais avec tout un casting, Noël Rochefort, etc.
Génial.
On est gâtés.
Merci. Il est beau le coffre.
Merci beaucoup Rebecca Marder, Benjamin Voisin pour L'Étranger, la semaine prochaine d'Ozon, merci beaucoup.
Merci.
Marina Foïs, Laurent Lafitte.
Oui, il y a 24 heures dans une journée, donc...
Oui, c'est ça, exactement.
Deux films, ça n'est que 4 heures.
Complètement complémentaire, la femme la plus riche du monde. Merci à notre équipe Valérie Aestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation et Olivier Rioux à la programmation musicale.
C'était On aura tout vu sur France Inter.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.